Chapitre 18. Troubles domestiques. 4 ou 5 jours après cet événement, les malheureux pressentiments de Lucile se réalisèrent et Oscar eut une nouvelle crise. Le médecin fit venir, comme il l'avait promis, son collègue de Brighton. Mais celui-ci ne nous donna rien de bon à espérer. Selon lui, le peu de temps écoulé entre la première attaque et la seconde était d'un fort mauvais présage. Il nous indiqua les soins généraux à donner aux malades, qu'il laissa libre de décider s'il resterait au sable ou s'il irait voyager. Il semblait penser que le déplacement, quel qu'il fût, ne saurait avoir aucune influence sur le retour périodique des crises, mais que la santé du patient, prise au point de vue général, pourrait en profiter. Quant au mariage, nous ne devions pour le moment ne pas y songer. Lucile apprit le résultat de la consultation avec une résignation bien pénible à voir. « Rappelez-vous, me dit-elle, ce que je vous ai dit lors de la première attaque. Notre printemps est passé et l'hiver commence. » Elle avait, en parlant ainsi, l'air de quelqu'un qui s'attend à quelque nouveau malheur. Elle ne fut tirée de sa tristesse que par l'arrivée d'Oscar, qui était naturellement fort abattu en voyant s'écrouler tous ses projets. Lucile réussit à lui rendre un peu de courage. Je tâchais en vain de mon côté de lui persuader de voyager et d'aller dans quelque endroit moins triste que Dymchurch pour se distraire, mais il ne parut pas se complaire à l'idée de voir autour de lui des visages étrangers et de nouveaux points de vue. Je sentis, entre ces deux jeunes gens qui se laissaient si facilement abattre par le malheur, ma gaieté me quittait. Nous aurions été au fond d'une citerne desséchée, dans un désert, que nous n'aurions pu envisager l'avenir sous d'aussi sombres couleurs. Comme Oscar partageait la passion de Lucile pour la musique, nous crûmes un instant avoir le moyen de nous distraire un peu. Nous jouâmes tour à tour, Lucile et moi, mais, après tous nos efforts, nous n'étions pas plus gais. Quant à M. Finch, il prit sa part de nos chagrins en parlant aussi fort et aussi longtemps qu'il put de sa plus belle voix de basse taille. À entendre le petit pasteur, on aurait pensé que personne ne se ressentait du poids de nos malheurs domestiques et ne savait les déplorer mieux que lui. Il fallait le voir se pavaner sur ses maigres jambes pendant que les médecins étaient en consultation et l'entendre haranguer son auditoire composé de sa femme et de moi dans la salle à manger. Madame Finch, assise dans son coin avec son baby et son roman, et affublée de sa jupe et de son châle, tandis que, forcée d'écouter le recteur, je me tenais dans un autre coin. Il nous avait, pour ainsi dire, cités à comparaître, à seule fin de l'entendre déclarer que c'était surtout sur lui que retombait le poids des malheurs qui pesaient sur la famille. « Je crains, Madame Pratolungo, je crains, disait-il, de ne pouvoir vous donner même une faible idée de ce que je ressens dans ces circonstances déplorables. Je vous considère comme une véritable amie, vous vous êtes toujours montrée pleine de bonté et de sympathie, mais je crains fort que vous ne puissiez apprécier à sa juste valeur le coup qui m'a frappé. Je suis brisée, Madame. Oui, Madame Finch, je suis brisée. » En disant ces paroles, il se tournait alternativement vers moi et vers sa femme. Oui, ce mot seul peut dépeindre l'état dans lequel je suis. Il s'arrêta de nouveau, en ayant l'air de s'attendre, comme à une chose fort naturelle et convenable, à ce que nous nous trouvions mal toutes deux. J'attendais que la maîtresse de maison me donnât l'exemple, mais il paraît qu'elle ne goûta point l'idée de s'étaler sur le plancher avec son enfant et son roman, puisqu'elle resta sur sa chaise. J'eus donc l'audace de m'imiter et de ne pas m'évanouir. Mais pour amortir le désappointement du recteur qui attendait toujours, je montrai un visage aussi éploré que possible, tandis que Madame Finch le regardait avec déférence et comme s'il était le plus noble et le plus malheureux des hommes. « Ma santé en est tout ébranlée, » reprit-il avec une certaine satisfaction en voyant Madame Finch porter son mouchoir à ses yeux. « Oui, ébranlée. J'éprouve des faiblesses d'estomac et rien ne fonctionne plus régulièrement. En un mot, l'équilibre de ma santé est détruit. Cette malheureuse affaire m'a donné un appétit intempestif qui me fait agir sans rime ni raison. Ainsi, il m'arrive de vouloir déjeuner au beau milieu de la nuit et dîner à 4 heures du matin. Tenez, voilà ma faim qui me reprend. » Monsieur Finch fronça les sourcils d'un air sombre, tandis qu'il pressait de sa main les derniers boutons de son gilet râpé. À ce spectacle, Madame Finch tourna vers moi ses yeux bleus que la douleur remplissait de larmes. Ayant enfin consulté son estomac, le recteur courut ouvrir la porte qui donnait sur la cuisine, située dans le bas de la maison, et, du haut de l'escalier, s'écria d'une voix de tonnerre « Qu'on me serve 9 pochés !» Puis il revint, consulta de nouveau son estomac, tout en me regardant d'un œil fixe et sévère, et courut avec une ardeur furibonde donner contre-ordre à la cuisinière. « Pas d'œuf !» s'écria-t-il, « un hareng sort !» Les yeux fermés et se pressant le front d'un air d'angoisse, M. Finch revint s'excuser alternativement auprès de sa femme et auprès de moi. « Vous voyez, Madame Finch, et vous, Madame Pratolung, ce que je souffre, c'est tout simplement lamentable. J'hésite sur des bagatelles. Je m'imagine que j'ai envie de manger un œuf poché, et pas du tout, c'est un hareng sort qu'il me faut. Il m'arrive souvent de ne pas savoir ce que je veux. Oui, je vous en donne ma parole de gentleman et de recteur, je ne connais pas ma propre volonté. J'ai des attaques de fringales pendant le jour et la nuit. Je suis en proie à une insomnie maladive. Quelle position, mon Dieu ! Non seulement je ne dors plus, mais je trouble dans mon agitation votre sommeil et celui de Madame Finch. Ah, Madame Pratolungo, jamais au grand jamais, je n'ai souffert un pareil bouleversement. Non, pas même celui dont j'ai souffert il y a quelques années, alors que... Voyons, Madame Finch, était-ce au moment où vous eûtes votre 9e ou 10e enfant ? Le 10e, dites-vous ? Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper ? Bien, bien, excellente créature ! Il s'agissait, Madame Pratolungo, d'embarras pécuniaires. Je m'arrangeais pour m'en tirer, mais comment ferais-je cette fois-ci ? Quand je songe que tous mes plans à l'égard de ma fille et d'Oscar étaient déjà faits, et que j'avais si bien arrangé tout, j'y voyais un avenir pour moi et pour ma famille. Oh, providence insondable ! Que reste-t-il à présent ? Rien ! Tout a été annihilé d'un seul coup. Il s'arrêta en levant au plafond les yeux et les mains, tandis que la cuisinière apparaissait avec le hareng sort. M. Finch, à l'apercevant, répéta « Oh, providence insondable !»« Mange-le, mon ami !» lui dit Madame Finch. « Mange-le pendant qu'il est chaud !» Finch hésita un peu. Ses poumons infatigables lui disaient de continuer, et son estomac rebelle réclamait impérieusement le hareng sort. Il prit tout à coup son parti, et s'arrêtant à providence insondable, il se mit à poivrer son hareng. Après l'échantillon que je viens de vous donner, je compléterai la peinture des faits et gestes du cher homme en présence du malheur qui venait de nous frapper, en ajoutant qu'il emprunta 200 livres à Oscar, et qu'à partir de ce moment, il ne dérangea plus le sommeil de Madame Finch, et cessa subitement de commander des harengs sorts. Aux journées monotones de l'automne avaient succédé les longues soirées d'hiver. Notre horizon ne s'était pas éclairci, et les médecins prodiguaient en pure perte leurs soins à Oscar. Ces affreuses attaques le reprenaient sans cesse, et les jours passaient et se ressemblaient dans leur désespérante monotonie. Je commençais à croire, comme Lucille, qu'une crise approchait. « Ceci ne peut durer, me disais-je souvent, et surtout lorsque mes idées prenaient une teinte noire. Avant que l'année soit écoulée, il y aura du nouveau. » Mes pressentiments ne me trompaient pas, et les malheurs de la famille Finch vinrent se compliquer des miens. Je reçus dans les premiers jours de décembre une lettre de Paris. Une de mes plus jeunes sœurs me donnait des détails fort inquiétants sur un homme que je chérissais et dont je vous ai déjà parlé, en un mot, sur mon excellent père. Le vénérable auteur de mes jours n'était pas attaqué d'une maladie mortelle, mais de quelque chose de bien pis. Il était atteint d'une dangereuse passion pour une jeune femme de mœurs légères. Et à quel âge, mon Dieu ? À l'âge de 75 ans. Comment pourrais-je qualifier une pareille conduite ? Je regrette d'avoir à vous infliger le récit de mes chagrins domestiques. Mais vous verrez dans la suite que ce que je vais raconter se rattache intimement à l'histoire d'Oscar et de Lucille. Du reste, j'aurais été forcé, tôt ou tard, de vous faire connaître le côté faible, le grave défaut, si vous aimez mieux, de mon père, l'homme le plus gai, le plus élégant, le mieux conservé de son temps. Devant un tel malheur, nous ne pouvions que montrer de la résignation. Nous vivions cependant, depuis la mort de ma mère, dans la crainte continuelle de le voir épouser, une de ces nombreuses intrigantes qui le subjuguaient par leur charme tour à tour, et qui pisaient de le voir se battre en duel avec des jeunes gens dont il aurait pu être le grand-père. Il était si susceptible et si courageux. Combien de fois ai-je eu à intervenir pour le tirer d'un mauvais pas, ou l'avait mis quelque folle équipée, il est vrai, mais en ayant invariablement le désagrément de débourser, ce qui du reste était bien fait pour la femme qui n'avait pas honte de demander de l'argent en pareille circonstance. Ce n'était cette fois-ci qu'une répétition de ce qu'il avait déjà fait. Mes sœurs avaient essayé, mais en vain, d'y mettre le holà. Il fallait donc que je parusse sur la scène pour souffleter peut-être l'héroïne de l'intrigue, quitte ensuite à lui donner de l'argent pour en débarrasser mon père. Ma pauvre aveugle éprouva, quand elle apprit que j'allais partir, plus que de l'ennui. Elle en conçut un chagrin réel et elle s'attachait à mes pas le matin de mon départ, comme si elle eût espéré mon retour. Que ferais-je sans vous, me dit-elle, et comment pourrais-je me passer de la consolation d'entendre votre voix et de ne plus vous avoir auprès de moi pour me protéger? Combien votre absence va-t-elle durer? Un jour pour aller à Paris et un jour pour revenir. 5 jours pour confondre l'intrigante et tirer mon père de ses griffes. Total 7 jours. Je vais donc faire mon possible pour ne pas rester à Paris plus d'une semaine. Soyez de retour, quoi qu'il arrive, avant le jour de l'an. Pourquoi, Lucille? J'ai affaire à ma tante cette visite annuelle que j'ai déjà remise 2 fois. Il faut absolument que je parte la veille du jour de l'an pour aller passer chez ma tante mes 3 mois de rigueur. J'avais espéré qu'avant cette époque, j'aurais été unie à Oscar par le mariage. C'en est fait, continua-t-elle d'une voix qui tremblait, il faut que nous nous séparions, lui et moi. Mais si je n'étais pas sûre que vous reviendriez ici pour le consoler pendant ces 3 mois, je resterais, quoi qu'il pût advenir. Cela signifiait tout simplement, d'après les conditions du testament de son oncle, qui réglait sa conduite tant qu'elle resterait demoiselle, qu'elle sacrifierait sa fortune en restant à Dymchurch. Si M. Finch l'eût entendu en ce moment, il n'aurait pas même eu la force de s'écrier « Providence insondable !» et il se serait bel et bien évanoui. « Ne craignez rien, répondis-je à Lucille, je serai revenu avant votre départ. Quant à Oscar, son état est susceptible d'amélioration. Il se pourrait qu'il fût assez remis pour aller vous voir chez votre tante à Londres. » Elle secoua la tête en signe d'une incertitude si douloureuse que les larmes m'en vinrent aux yeux. Je lui donnai un dernier baiser et m'empressai de partir. Je devais partir par New Haven et Dieppe. Je ne sus jusqu'à quel point je m'étais prise d'affection pour Lucille qu'au moment où, au détour de la route de Brighton, je perdis le presbytère de vue. À ce moment, toute ma fermeté habituelle m'abandonna et je me sentis torturée par le pressentiment que quelque grand malheur pouvait arriver pendant mon absence. Je fus tout de même étonnée de me surprendre, moi, la veuve du spartiate Pratolungo, versant des larmes comme une femme ordinaire. La douleur vient assaillir, plutôt que les autres, ceux qui ont le cœur sensible. Mais basta, il faut bien, tant qu'on reste dans ce bas monde, aimer quelqu'un ou quelque chose. Je le sais, moi qui ai vécu dans le monde un nombre d'années qu'il est inutile de faire connaître. Pour le moment, j'aime Lucille. Avant elle, c'était le docteur que j'aimais, et avant lui... Ah, cher lecteur, halte là, nous n'irons pas plus loin que le docteur, s'il vous plaît.